Bonjour tout le monde, bonjour Fabrice.
Bonjour Isabelle et puis bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons embarquer pour une fabuleuse odyssée du sacré en éclairant ensemble la grande histoire des croyances et des spiritualités. Homo sapiens s'interroge en effet depuis toujours sur le mystère de la vie et sur sa présence ici-bas. Des interrogations existentielles qui ont donné naissance à tous les grands courants spirituels et religieux que l'on a pu connaître à travers l'histoire.
C'est cela, et puis pourquoi sommes-nous le seul animal sur Terre cherchant à donner du sens à sa vie, à inventer des grands récits collectifs et puis à croire en des forces invisibles? Quelles sont les causes de ce besoin de transcendance et quels grands marqueurs historiques expliquent les bouleversements religieux et spirituels des sociétés humaines? Pour en parler donc, on a la chance d'avoir un invité prestigieux qui a répondu à notre demande en la personne de l'écrivain, philosophe des religions et sociologue Frédéric Lenoir, qu'on est absolument ravi d'avoir à nos micros et qui est notamment l'auteur dernièrement, chez Albin Michel, de l'Odyssée du Sacré.
Dans un second temps, nous resterons dans le monde spirituel en revenant au plus près de notre territoire et en recevant à nos micros Douma Verdogne, professeur en langue et culture régionale à l'Université de Corse, avec laquelle nous explorerons la singularité des religiosités populaires en Corse.
Sabienza, l'invité.
Une mini-reproduction d'un joli dimanche au parc Galet à Fabrice. Hein, vous avez eu beaucoup de monde.
Je crois que dans l'histoire du parc et dans ces 10 ans effectivement d'existence, c'est la première fois qu'on a autant de public qui rejoint nos invités. C'était absolument fabuleux. Et c'était avec Frédéric Lenoir qui nous fait l'honneur d'être à ses micros.
Et précédé de Dominique Verdogne dans la rubrique Rijerk à 14h, toujours au parc Galet, qui a ouvert ses portes, on vous le rappelle, depuis le mois de mars. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Isabelle, bonjour Fabrice.
Bonjour Frédéric.
Frédéric, toujours en Corse, toujours à nos côtés, et qui nous fait l'amitié en effet de répondre à ces quelques questions pour l'ensemble de nos auditeurs. Alors peut-être un chiffre pour planter le décor sur 8 milliards d'individus dans le monde. 6 croient en une entité supérieure. Pourquoi, Frédéric Lenoir, avons-nous ce besoin de spiritualité ?
Je vais donner la parole à Albert Einstein, qui nous dit « Je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie et du monde. » Et c'est cette émotion qui a donné naissance à la science, à l'art et à la religion. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, l'être humain a cette singularité d'être ému, d'être bouleversé par la beauté du monde, par un coucher de soleil, d'être ému par la naissance, d'être bouleversé par la mort d'un proche, et puis de s'interroger sur « mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Y a-t-il quelque chose après la mort ?» nous avons conscience de notre finitude, et toutes ces interrogations sur le sens de la vie, sur l'origine du monde, etc., c'est quelque chose qui nous amène à rechercher une forme de transcendance ou à ressentir une émotion qu'on peut appeler le sacré. Moi, ce que j'appelle le sacré, c'est cette émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et du monde. Alors maintenant, pourquoi ? Eh ben, je n'en sais rien. C'est-à-dire, pourquoi il a cette singularité ? Alors, il y a, dans mon livre, j'évoque diverses hypothèses. Vous avez ce que disent les religions elles-mêmes et puis les grands courants de la philosophie grecque, la plupart d'entre eux en tout cas, comme le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme. Eh bien, ils nous disent c'est parce que l'être humain, finalement, a en lui une âme spirituelle, un esprit qui le connecte au divin, c'est-à-dire à ce qui serait son créateur, ce qui serait à l'origine du monde et de lui-même, et de la vie. Et donc, il a cette parenté divine qui fait que il aspire à retrouver cet infini qu'il a en lui, et c'est pour ça qu'il s'interroge. Et puis, vous avez à l'autre opposé des penseurs complètement matérialistes et athées, qui ne croient pas du tout dans un monde divin, comme Marx, comme Freud, comme Nietzsche, qui nous disent c'est tout simplement parce qu'il a peur de la mort et qu'il a en lui effectivement quelque chose qui fait qu'il a conscience de sa finitude et qu'il angoisse. Et du coup, par exemple, Freud nous dit il est dans une attitude de désemparement, de désarroi profond devant l'angoisse de la mort et devant le chaos et tout ce qui le menace, et qu'il a besoin de donner du sens et de se rassurer en inventant des forces invisibles. Donc vous voyez, vous avez deux hypothèses complètement extrêmes, et après à chacun, je dirais, de se faire son point de vue.
Et c'est déjà joliment posé, voilà, au niveau de la pensée. Dans votre ouvrage, vous le précisez, selon vous, à l'appui notamment de travaux archéologiques, serait pu commencer cette question de la spiritualité chez Homo sapiens il y a peut-être 150 000 ans, notamment du côté, d'une manière très précise, dans les tombes, de positionner le mort et puis de l'entourer d'armes, par exemple, ou de nourriture ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que on voit apparaître de manière archéologique ce sens du sacré à travers effectivement les rituels funéraires. Et je précise qu'un rituel funéraire, c'est pas simplement poser un mort comme ça là des animaux comme les éléphants mettent les morts à certains endroits, vont mourir à certains endroits. Mais il y a aucun rituel qui implique un élément symbolique, c'est-à-dire quelque chose, un objet, une couleur qui associe la mort à quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible. Et donc, quels sont les rituels symboliques qu'on voit apparaître à la fois chez Sapiens, dès son apparition, et chez Néandertal, il y a environ 150 000 ans? Ce sont effectivement des positions particulières dans lesquelles on met le mort. Par exemple, on va l'enterrer en position fœtale, ce qui évoque symboliquement l'idée d'une renaissance. On va le mettre la tête enterrée systématiquement vers l'est, là où le soleil se lève, d'où l'idée de la renaissance. On va lui mettre de l'ocre rouge. On va enduire les corps d'ocre rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la vie. Et puis, comme vous le disiez, on va leur mettre de la nourriture, des armes, ce qui évoque symboliquement l'idée qu'ils vont peut-être en avoir besoin dans un autre monde, donc dans un au-delà. Et donc là, on voit apparaître la première croyance, finalement, de l'histoire de l'humanité dont on a une certitude archéologique, c'est la croyance possible dans une survie de l'âme après la mort.
Et est-ce qu'on peut imaginer, c'est compliqué évidemment parce que les traces ne sont pas là, qu'ils pouvaient être animistes, ces premiers humains croyants?
Alors, il y a deux choses qui peuvent nous l'indiquer, même si on peut avoir aucune certitude absolue. D'abord, c'est le fait que des populations qui vivent selon un mode de vie similaire au leur, dont on voit encore les traces aujourd'hui, c'est-à-dire au fond des nomades, des peuples chasseurs-cueilleurs, qui vivent encore aujourd'hui, il y en a de moins en moins évidemment, mais qui vivent encore aujourd'hui comme le vivaient nos ancêtres de la préhistoire. Eh bien, tous ces peuples-là sont toujours animistes. C'est des peuples qui vivent insérés dans la nature et qui croient en des forces invisibles de la nature, et notamment avant la chasse, ils vont faire des rituels dans lesquels, face à des représentations des animaux, ils vont rentrer en transe, les chamans vont rentrer en transe pour essayer de demander aux esprits invisibles des animaux de bien vouloir venir se faire chasser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve quand même un signe assez fort de ça à travers l'art pariétal. Et l'art pariétal, vous savez, ce sont ces peintures qui sont faites dans les parois des cavernes, notamment, on connaît très bien Lascaux ou la grotte Chauvet. Eh bien, cet art pariétal qui date de 30, 40, 50 000 ans avant notre ère, ça représente toujours des animaux, et des animaux qu'on chasse. Et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été faire ces peintures, qui sont des fois magnifiques d'un point de vue esthétique, est-ce qu'ils ont été les faire dans des parois très cachées, difficiles d'accès, dans le noir? Ça n'a pas de sens. Si c'était de l'art pour l'art, on le ferait en plein air, à l'extérieur, comme il y a pas mal de peintures rupestres qui existent. Mais là, vraiment, les scènes de chasse sont toujours enterrées. Et donc, il est très probable, et c'est l'hypothèse de Jean Klotz et d'autres préhistoriens, que c'est déjà une forme d'expression d'un chamanisme et de croyance animiste, et que les chamans allaient de la préhistoire, donc allaient se mettre dans des cavités profondes pour rentrer en transe, représenter, ils dessinaient les animaux qu'ils voulaient chasser sur les parois, et donc c'était des rituels chamaniques. Alors ça, c'est une hypothèse qui n'est pas partagée par tous les préhistoriens, mais disons que plusieurs d'entre eux sont convaincus de cette hypothèse, ce qui collerait avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'au fond, la religiosité correspond à un mode de vie. Et c'est l'hypothèse centrale de tout mon livre, c'est de dire que notre religiosité va changer en fonction de nos modes de vie. Et qu'on a un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur, eh bien la religion qui domine, c'est l'animisme.
Effectivement, dans votre ouvrage « L'Odyssée du Sacré », Frédéric Lenoir, vous faites apparaître des corrélations entre les grandes révolutions spirituelles et les bouleversements des sociétés humaines. À chaque changement de vie correspond un changement de religiosité ?
Alors effectivement, c'est l'hypothèse que je développe, mais elle est, je crois, assez bien étayée, parce qu'on va prendre juste un exemple. Le premier grand bouleversement de l'humanité, de mode de vie, qui apparaît partout sur la planète, pas tout à fait au même moment, mais en tout cas qui apparaît partout sur la planète, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire, c'est le moment où l'être humain va se sédentariser, Et il va développer l'agriculture et l'élevage. Ça a lieu il y a environ 15 000 ans avant notre ère, lors d'un réchauffement climatique. Il y a eu sur plusieurs millénaires un réchauffement climatique. Les hommes sont sortis des cavernes où ils se protégeaient du froid et ils ont commencé à créer des villages, des cités et à mettre des enclos autour des cités pour se protéger des animaux sauvages. Donc ils se coupent de la nature. Avant, ils vivaient complètement insérés dans la nature. Là, ils se coupent de la nature, ils se protègent des animaux et ils chassent beaucoup moins, voire plus du tout. Et ils vont développer l'agriculture et l'élevage. Et à ce moment-là, on découvre que leur religiosité va complètement changer et ils vont créer les dieux et les déesses de la cité. Et donc, ils ne vénèrent plus les animaux et les esprits des animaux comme ils le faisaient auparavant, mais ils vont vénérer des dieux et des déesses qu'ils vont mettre au ciel. Et là, c'est très intéressant parce qu'on passe d'une religion, on peut dire, horizontale. L'être humain fait partie de tous les vivants, il se situe au même niveau que les autres animaux, à une religion verticale. En haut, il y a les dieux et les déesses au ciel. En dessous, il y a la nature, le monde naturel. Et au milieu, il y a l'être humain qui considère qu'il est choisi par les dieux pour, au fond, gouverner la nature, maintenir l'ordre cosmique à travers les rituels religieux. Et ça, on retrouve ça dans toutes les religions antiques. C'est le fondement même des religions antiques, dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez prononcé le nom de Dieu associé au nom de déesse, précisément le féminin. Vous en parlez également dans les rencontres en public ou dans les ouvrages, ou les interviews d'ailleurs que vous pouvez donner. Oui, il y avait un côté très féminin au départ de cette entité supérieure qui a été ensuite effacée par le masculin.
Alors absolument, c'est très intéressant de voir que les premières représentations de divinité, c'est la grande déesse, c'est-à-dire une femme. Qui a des attributs forts de la maternité, elle a des fesses importantes, des seins importants. Et donc cette femme, c'est la grande déesse qui est parfois associée au taureau, qui lui va représenter plutôt la puissance de la virilité. Et cette grande déesse va dominer dans toutes les civilisations au début du néolithique. Et puis progressivement, au fil des millénaires, elle va disparaître au profit des dieux mâles. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'avec tout simplement le développement de l'agriculture et de l'élevage, et surtout de l'élevage, l'être humain va prendre conscience que le mâle joue un rôle déterminant dans la naissance des enfants. Et quand vous mettez dans un troupeau de brebis un bouc, eh bien, il va y avoir des petits, il va y avoir des bébés. Alors que s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'enfants. Et du coup, cette prise de conscience par la sédentarisation que le masculin, l'homme est nécessaire pour qu'il y ait des enfants, eh bien, ça va faire que le mâle va se réapproprier finalement la filiation. Et donc, il va considérer qu'il n'y a pas de raison de diviniser la femme comme étant source elle toute seule de la vie. Et du coup, on va voir apparaître le développement du patriarcat. C'est-à-dire que de plus en plus, l'homme va prendre le pouvoir sur la femme, il va prendre le pouvoir dans la cité, il va gouverner, il va s'attribuer toutes les fonctions essentielles de militaire, de gouvernement, de prêtre. Le clergé qui pouvait être un peu féminin au départ va devenir essentiellement masculin. Et bien, au même moment, on va changer le panthéon. Et on va voir les déesses diminuer de plus en plus et voir apparaître la dominance des dieux mâles jusqu'au monothéisme où, dans la logique du patriarcat, eh bien, lorsqu'on imaginera un seul dieu, ce dieu aura tous les attributs d'un dieu masculin. C'est le dieu des armées, c'est un dieu juge, c'est un dieu qui gouverne, c'est un dieu combattant, c'est-à-dire un dieu finalement à l'image simplement de l'homme et non plus de la femme.
Nous avons beaucoup de chance, nous recevons à nos micros Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue, écrivain qui a vendu des millions de livres et qui est traduit dans plus de 25 langues. Il est à nos micros pendant ce magazine, pendant cette heure.
Silenzio si è sparto, con funi attarzati nell'ossa di un sangue. Un connobbini qui, pietà né compassioni, i cristiani mandati a tomba i cristiani. Ci ulia pulì, satara d'arasia, di vele di fileno, acciaccassi di tutti, ma io e creaturi, solo lui creatori, cluso santo seno, ci darà tra i morti, quidi chi funi puri.
si le di e si la solve secum in favilla di e si le di e si la solve secum in favilla ci ulia puli secum in favilla dies ire dies ila solve secum in favilla ciulia puli secum in favilla dies ire dies ila solve secum in favilla ciulia puli vodili di uanali astirpa lasumenti prestumi si infossa e si castighi grevi pesan in la memoria e gli accininamenti da ghida campi in pace di garbini a pievi di essi re di essi la solve secum in favilla di essi re di essi la solve secum in favilla di essi re di si la solve secum in favilla di e si la solve secum in favilla
e Giovanna lì sur Avreguanza Mor
Sabienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Nous recevons cet auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, des essais, des romans, des contes, des encyclopédies, traduits, nous l'avons dit, dans plus de 20 langues, vendues à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Le philosophe, sociologue et écrivain Frédéric Lenoir, à nos micros pour parler du sacré. Avec, vous nous l'avez dit, aux premières heures de la spiritualité des dieux au-dessus de nous, et même des déesses, les hommes et le contrôle de la nature. Comment du coup, Frédéric Lenoir, et quand arrive-t-on au monothéisme ?
Bien, en fait, ça s'est fait par étapes. On peut dire que au départ, il y a donc un nombre important de dieux et de déesses qui répondent à des besoins différents. Parce qu'en fait, une des logiques religieuses fondamentales, hein, qui est universelle, c'est que on vénère les dieux, mais on demande aux dieux et aux déesses de nous apporter quelque chose. C'est un peu la logique du don. Marcel Mauss, le grand anthropologue français, l'a très bien montré par son anthropologie du don. On peut dire c'est donnant, donnant. C'est-à-dire que je fais des sacrifices aux dieux et aux déesses, je leur offre quelque chose et en échange, je leur demande de la protection, de la fertilité pour les troupeaux, de la pluie pour les champs, etc. Et donc finalement, dans cette logique-là, il y a de nombreux dieux et déesses qui correspondent aux besoins différents de l'être humain. Et le dieu de la guerre, la déesse de la fécondité, etc.
Oui, chacune et chacun avec leurs attributs et leur domaine
fonction.
D'activité. Oui, c'est
exactement,
ça, leur fonction.
Leur domaine d'activité. Et ça, on trouve ça, mais dans toutes les cultures. Hein, c'est vraiment tout à fait universel. Et puis, puis, à un moment donné, on va se dire, mais il y a quand même peut-être un dieu ou une déesse supérieure aux autres. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les cités? Eh bien, on s'aperçoit que pour que la cité fonctionne, il y a besoin d'un chef. Et donc, on se dit de même qu'il y a un chef, un roi, un empereur, eh bien, il faut qu'au ciel, ça marche pareil. Il y en a un qui doit être supérieur aux autres, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc, est née l'idée de ce qu'on appelle l'énothéisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux et déesses, mais il y en a un qui est supérieur aux autres. Par exemple, Zeus pour les Grecs, Amon pour les Égyptiens. Et puis, dans cette logique-là, on va finir par se dire, mais s'il y a un dieu supérieur aux autres qui commande, c'est que les autres ne sont pas vraiment des dieux. Donc, c'est alors dans un premier temps, ça va être des demi-dieux, puis après, ça va être carrément, finalement, des êtres intermédiaires, des héros ou des anges, par exemple, dans la logique du mazdéisme ou de la Bible. Et donc, il n'y a plus qu'un seul dieu. On peut dire que c'est une forme de rationalisation. C'est Max Weber, hein, le grand sociologue, qui parle du processus de rationalisation. On rationalise... La raison se développe et on organise la cité humaine et de même on organise le panthéon céleste avec une logique d'efficacité. Et ce qui fait qu'on se dit, bah, au fond, c'est plus efficace, c'est plus rationnel et plus logique qu'il y ait un seul dieu. C'est comme ça qu'au terme de plusieurs millénaires, le monothéisme est apparu d'abord d'ailleurs en Égypte. Avec la grande réforme de Toutankhamon, enfin pas de Toutankhamon, d'Akhenaton, Amenophis IV, qui a pris le nom d'Akhenaton, c'est le soleil qui est le dieu unique, et puis ensuite c'est le peuple hébreu, et puis ensuite c'est le mazdéisme hein, avec Zoroastre en Perse qui vont développer cette idée qu'il y a un seul dieu et que tous les autres sont au fond des serviteurs de Dieu.
Ce qui est intéressant, vous le relevez aussi, Frédéric Lenoir, notamment à Rome, quand un empereur va se convertir au christianisme et donc va finalement faire changer de religion à tout un peuple, en quelques années, hein, ça va se passer très très vite, les chrétiens de persécutés deviennent persécuteurs.
Alors, ça s'est passé en à peu près un siècle. Ouais. C'est vrai que les trois premiers siècles du christianisme, les chrétiens ont été violemment persécutés parce qu'ils refusaient de rendre un culte au dieu de la cité. On tolérait, l'Empire romain était très tolérant. Il permettait que chacun ait son culte particulier. Mais en même temps, il demandait que tout le monde vénère quand même les dieux de la cité parce que c'est la religion commune. Et puis après, on a ces dieux particuliers. Mais il y a deux peuples qui refusaient, c'était les juifs et les chrétiens. Donc les deux ont été persécutés et les chrétiens qui devenaient de plus en plus nombreux ont été évidemment violemment persécutés jusqu'au 4e siècle. Et puis à un moment donné, ils représentaient à peu près 10% de la population. L'Empire romain commençait à être en pleine décadence et à ce moment-là, effectivement, Constantin s'est probablement converti au christianisme. Il s'est appuyé sur les chrétiens pour moraliser l'Empire parce que c'était des gens vertueux, courageux, qui avaient des valeurs fortes. Il s'est appuyé sur eux pour moraliser l'Empire et puis on a arrêté les persécutions, on leur a donné des biens, on leur a construit des églises et à la fin du 4e siècle, sous Théodose, le christianisme est devenu en moins d'un siècle la religion principale de l'Empire, mais non seulement principale, la religion officielle de l'Empire. Et à la suite de ça, ben, les empereurs qui ont suivi Théodose ont commencé à persécuter les païens. Et on voit que les grands saints du christianisme, comme saint Augustin, adhèrent complètement à cette logique. Et non seulement adhèrent, mais l'encouragent. Et saint Augustin écrit par exemple au préfet Faustus qui lui dit « Tiens, dans ma région, il y a des gens hérétiques qui ne partagent pas la foi dominante de l'Église romaine. » Et saint Augustin lui dit « Il faut les éliminer, ils sont dangereux pour l'Empire et pour l'Église. » Et donc on rentre dans une logique effectivement de persécution des païens. Et ça, on le voit partout. Hein. Malheureusement, c'est que la religion, vous savez, l'étymologie de la religion, c'est relier. Hein. La religion crée du lien. C'est-à-dire qu'elle crée du lien social. Elle a une dimension essentiellement politique. Elle permet à des individus, dans un royaume ou un empire qui est vaste, des individus qui ne se connaissent pas, de partager les mêmes croyances et les mêmes rituels. Et du coup, ça crée un lien très très fort. Et en même temps, cette religion qui crée du lien à l'intérieur d'une communauté, elle va aussi créer de la violence envers ceux qui ne partagent pas les hérétiques, hein, la foi commune, et envers ceux qui ont d'autres religions, les infidèles. Et donc c'est pour ça que la religion, elle est très ambivalente, elle est à la fois source de liens et source de violence.
Et oui, finalement, cette spiritualité censée apaiser, rassurer, donner de la sagesse et de la force aux êtres humains, sème aussi paradoxalement la zizanie, c'est ce que vous nous expliquez.
Oui, tout à fait. Il y a cette double dimension. Et alors là, je distinguerais quand même quelque chose d'important. Je distinguerais la religion de la spiritualité. Puisque, vous avez raison de le rappeler, la spiritualité, c'est une dimension fondamentale de l'être humain qui aspire à la paix, qui aspire à vivre des valeurs profondes, à la connaissance, à la vérité. Et donc, on pourrait distinguer la spiritualité comme une quête individuelle, cette quête de transcendance, de sacré. Je parlais tout à l'heure de l'émotion qu'on ressent devant le mystère de la vie qui a donné naissance à l'art, à la science, à la religion. Mais ça, cette dimension individuelle, universelle, elle est source au fond de sagesse, elle aspire à la connaissance. La religion, c'est la dimension collective, c'est-à-dire c'est le sacré géré par les sociétés humaines. Et donc, je dirais que dans la dimension collective, il peut y avoir de la violence, pour les raisons politiques que j'ai exposées, alors qu'une spiritualité individuelle qui vise à l'amélioration de l'être humain, qui vise à grandir en humanité, qui vise à mieux connaître, qui vise à développer l'amour, la compassion, le souci d'autrui, le respect, eh bien la spiritualité ne crée pas de la violence. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui notre monde a beaucoup plus besoin de spiritualité que de religion, puisque on le voit dans le cadre d'un choc de culture, de civilisation, eh bien la religion se durcit, elle devient souvent violente, intolérante, alors que la spiritualité individuelle, c'est ce qui permet à l'être humain de s'améliorer, d'être tolérant, d'être ouvert à l'autre. Et donc, c'est ces valeurs-là, aujourd'hui, qui peuvent permettre d'apaiser les conflits et les tensions.
On prendra précisément le temps, dans la troisième partie de Sapiens, de vous interroger, d'avoir votre éclairage sur cette question de la spiritualité contemporaine, et puis aussi d'éclairer, Frédéric Lenoir, vos projets. Autre grande rupture, peut-être, pour, on ne va pas dire terminer, mais c'est des grands traits, forcément, il y a 500 pages dans votre ouvrage, là on le fait en quelques minutes. Autre grande rupture, au moment peut-être des grandes découvertes, qui a permis voilà, d'aller ou de basculer vers d'autres religiosités?
Vous voulez parler, je pense, de la Renaissance.
Oui, bien sûr, à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement un des derniers grands tournants de l'histoire de l'humanité, grand bouleversement de nos modes de vie, avec à la fois la découverte des nouveaux mondes, et puis la science qui se développe avec la méthode cartésienne qui permet de faire table rase de toutes les connaissances du passé, de repartir sur des bases de l'expérience et de l'expérimentation. Donc c'est la naissance de la science, c'est la révolution copernicienne. On découvre qu'on n'est pas au centre de la Terre. C'est dans la foulée de tout ça le développement à la fois de l'esprit critique qui va porter fortement un coup très fort à la religion, notamment en Occident, qui va diminuer de plus en plus. Et puis, c'est aussi la globalisation du monde. Hein. C'est l'avènement progressif d'un village planétaire dans lequel on va tous être reliés. Et puis, c'est le développement de l'individualisation. De plus en plus, ce qui devient central, ce n'est plus le collectif, c'est l'individu. Et du coup, ça change tout. Parce qu'on voit que dans son rapport à la religion, l'individu, au fond, va de plus en plus choisir ce qui lui convient et rejeter ce qui lui convient pas. Donc dans les sociétés modernes, notamment européennes, la religion a fortement chuté, fortement diminué, tout simplement parce que les individus font leur choix, exercent leur esprit critique et ils vont librement choisir de croire ou de ne pas croire, ou de croire à certaines choses et de ne pas croire à d'autres. On le voit même aujourd'hui dans le monde catholique, même chez des pratiquants, eh bien il y a des gens qui vont dire « moi j'adhère à telle chose de l'Église, mais j'adhère pas à telle autre ». Et donc on voit très bien que c'est un bouleversement copernicien de la conscience religieuse. Ce n'est plus la religion qui norme tous les individus, ce sont les individus qui vont piocher dans la religion ce qu'ils veulent, ce qui leur donne du sens, ce qui les aide à vivre, et qui vont rejeter le reste. Et du coup, évidemment, c'est un effet complètement dissolvant sur la religion, et c'est ce qu'on appelle le processus de sécularisation. C'est-à-dire que progressivement, la religion sort de l'espace public et reste une affaire presque essentiellement individuelle dans les sociétés occidentales.
Nous sommes avec Frédéric Lenoir dans ce magazine de la connaissance.
RCFM, Sapiens.
Et nous parlons de l'Odyssée du Sacré dans une troisième et dernière partie.
C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde autour. À qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout. Il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps.
Les 10 commandements sur Avreguanza Mor.
Faisons le plein de connaissances dans Sabienza sur RCFR.
Avec notre invité philosophe des religions et sociologue Frédéric Lenoir, qui nous parlait il y a quelques instants de la globalisation. Alors justement, Frédéric Lenoir, dans ce monde interconnecté où l'info fuse, à l'heure de l'intelligence artificielle, que reste-t-il de la spiritualité contemporaine ?
Bien, en fait, on voit quand même deux mouvements contradictoires. Cette globalisation du monde entraîne beaucoup de tensions. Il y a un choc, on le voit très très bien, hein, des religions. Et du coup, je dirais, la religion, c'est quand même le vecteur identitaire. C'est ce qui fait qu'une civilisation est ancrée depuis des siècles, voire des millénaires, dans des traditions, dans des coutumes, etc. Et donc, c'est un pôle de résistance à la globalisation. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un repli identitaire. Il y a beaucoup de religions se ferment. Il y a des fondamentalistes qui reviennent. C'est très fort dans le monde musulman, mais c'est très fort également dans le monde hindou, même dans le monde bouddhiste. On voit à peu près partout, au fond, un repli identitaire. Alors ça crée évidemment de la tension. Ça crée parfois même de la violence extrême. Et donc, à côté de ce mouvement-là, on assiste à un autre mouvement complètement différent, qui est un mouvement, et plutôt dans le monde occidental, mais ça tend à se mondialiser, un mouvement de spiritualité dans lequel l'individu cherche au contraire à être de plus en plus dans l'ouverture, dans la connaissance, dans la tolérance, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une spiritualité individuelle qui vise à s'améliorer en tant qu'être humain. Et dans ce cadre-là, il y a un retour de la philosophie grecque. Et beaucoup de gens s'intéressent à la philosophie grecque, au stoïcisme, s'intéressent également aux spiritualités orientales, au bouddhisme, s'intéressent à la mystique, aux traditions. Beaucoup de gens font le pèlerinage de Compostelle. Il y a un retour, au fond, et principalement évidemment dans le monde occidental, mais un retour d'une spiritualité dans laquelle les valeurs de respect, d'humanisme sont très fortes. Et c'est cette tension-là à laquelle on assiste aujourd'hui. Ce sont deux univers très très différents. Et moi, ce qui me semble, et c'est vraiment ce que je crois profondément, c'est que si on veut s'en sortir, si on veut que l'humanité progresse, ben, on a besoin de spiritualité plus que de religion. Et en tout cas, il faut que les religions soient habitées par de la spiritualité. Puisqu'une religion sans spiritualité, ça peut donner naissance, effectivement, au communautarisme, au fanatisme. Alors que des personnes religieuses, c'est-à-dire qui pratiquent ensemble des rituels, qui pratiquent ensemble, qui partagent ensemble des croyances, si elles sont spirituelles, c'est-à-dire si elles ont une vie intérieure, eh bien, à ce moment-là, elles ne peuvent pas verser dans le fanatisme. Donc, le meilleur rempart contre le fanatisme, c'est la spiritualité. Et c'est aussi la spiritualité qui est le meilleur rempart contre la destruction de la planète, puisque le consumérisme effréné repose sur une vision matérialiste, égoïste, très individualiste, et la spiritualité développe des valeurs d'amour, de partage, qui fait que, au fond, ça peut être une manière de rechercher la justice en s'appuyant sur ses forces de l'esprit, de rechercher à donner du sens aux choses, d'avoir une vie plus vertueuse, une vie plus en harmonie avec les autres, plus en harmonie avec la nature. Et par rapport aux grands défis, notamment défis écologiques, je crois qu'une forme de spiritualité et d'intériorité va nous permettre de lutter contre ces deux grandes menaces du monde actuel. D'un côté, le consumérisme destructeur, d'un autre côté, le fanatisme religieux.
Le retour à la spiritualité forte, en tout cas présente, avec ses esprits aiguisés, et également le retour à la philosophie dès le plus jeune âge. Vous militez pour ça, Frédéric Lenoir, notamment à travers votre fondation SEVE, un joli acronyme, Savoir Être et Vivre Ensemble. C'est cette idée, on voulait également éclairer cela avec Isabelle, et en vous ayant à nos côtés, cette idée que les enfants tout petits peuvent avoir des gens formés par, en l'occurrence, votre fondation, qui viennent dans les écoles, et puis qui puissent réfléchir ensemble comme ça sur des grands thèmes philosophiques.
Tout à fait. Et donc, c'est justement pour aller dans ce sens-là que moi, je crois qu'il est très, très important de développer la philosophie, c'est-à-dire la réflexion. Pas simplement la connaissance philosophique, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie, mais la réflexion. Développer la capacité d'un esprit critique, de s'interroger, de questionner, et puis de débattre de manière constructive avec les autres, dans un esprit de progresser ensemble dans une recherche de vérité. Eh bien, ça, je pense qu'on peut le faire dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que avec cette fondation qui s'appelle SEVE, Savoir Être et Vivre Ensemble, on a développé ce qu'on appelle des ateliers de philosophie, où on apprend une méthode qui permet de mettre les enfants dans les écoles, dans des associations, dans des médiathèques, etc. On forme des animateurs ou des enseignants qui vont faire débattre les enfants. Et donc, il ne s'agit pas de faire un cours de philosophie. Il ne s'agit pas d'apprendre à des enfants de 6 ans ou 12 ans Kant ou Spinoza, ils ne comprendraient rien. Il s'agit de les faire philosopher. Donc, on pose une question. Par exemple, le bonheur, c'est quoi, ou pourquoi faut-il respecter les autres, etc. Et puis, c'est les enfants qui débattent. C'est-à-dire qu'ils expriment leur propre pensée, développent leur pensée personnelle. Donc ça leur donne confiance en eux. Ils sont reconnus comme des interlocuteurs valables puisque pour la première fois on leur demande ce qu'ils pensent et pas simplement de répéter ce qu'ils ont appris. Et puis ils apprennent à débattre entre eux, c'est-à-dire à s'écouter, à se respecter et à voir que finalement on progresse ensemble. Moi j'ai souvent des enfants qui après un cycle d'ateliers, quand ils ont fait 10 ateliers dans l'année, ben, ils disent ben, on pense mieux ensemble parce qu'on s'aperçoit que les autres nous enrichissent par leur pensée. Et ça a des vertus extraordinaires ces ateliers de philo, ça fait 7 ans qu'on le fait, on a formé plus de 5000 animateurs, il y a plus de 100 000 enfants qui en ont bénéficié et on voit que le climat scolaire s'améliore, il y a plus d'empathie, ça développe ce qu'on appelle des compétences psychosociales, donc à la fois des compétences cognitives, les enfants apprennent mieux à penser, à réfléchir, mais aussi à se respecter, à s'écouter, ils sont plus tolérants et c'est pour ça qu'on crée des formations qui sont ouvertes à tout le monde, il peut y avoir des enseignants mais aussi des personnes qui ont un peu de temps, des retraités, etc., qui se forment pendant plusieurs week-ends sur une année pour faire ces ateliers. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que on va très probablement ouvrir un parcours à Bastia cet automne. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut à ce moment-là aller sur mon site internet où il y a une page contact et puis m'écrire et je renverrai ensuite tous ceux qui seront intéressés sur la Fondation SEVE pour qu'ils puissent éventuellement avoir tous les éléments et s'inscrire.
SEVE comme Savoir Être et Vivre Ensemble, une fondation que vous avez cofondée sous l'égide de la Fondation de France, Frédéric Lenoir. Donc ça, c'est pour l'actualité à Bastia, le désir de prendre à bras-le-corps cette idée d'atelier de philo dans les écoles. Et puis bientôt, on vous retrouve également en Balagne, pour conclure.
Oui, alors absolument, j'ai effectivement une amie corse qui s'appelle Erika Nakahashi, qui est la fille d'un très grand professeur de karaté japonais qui a développé le karaté à Bastia depuis une trentaine d'années, et qui est sophrologue et qui travaille aussi dans tout le mouvement un peu du développement personnel, qui m'a proposé qu'on fasse ensemble, qu'on anime ensemble une sorte de séminaire pendant 4 jours, c'est du 2 au 5 mai, ça va être en Balagne, sur le thème « Les chemins du bonheur ». Et donc l'idée, c'est que je fasse des conférences philosophiques sur comment développer un bonheur profond, durable, comment développer la joie, comment lâcher prise, comment apprendre à faire face aux contrariétés et adversités de la vie. Et puis elle accompagnera ces réflexions de séances de sophrologie. On animera ensemble des méditations collectives. Donc c'est une occasion pour les Corses qui le souhaitent de se ressourcer, de prendre du recul dans un bel endroit. Et puis en même temps, de partager des réflexions sur cette grande question du bonheur qui nous préoccupe tous.
Frédéric Lenoir, ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui à nos micros. Excellente fin de journée et à bientôt, donc pas très loin de chez nous.
Merci.
Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Sapiens, chaque semaine sur RCFM.
Enya sur Avregoan Samora et dans votre magazine Sabiens.
Sabiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Avec Doumé Verdon, à présent à nos micros, professeur en langue et culture régionale à l'Université de Corse. Doumé Verdon, bonjour et bienvenue.
Et bonjour Isabelle et merci pour votre invitation.
Bonjour Doumé, bienvenue également.
On vous doit notamment le livre Azetimana Zanta in Corsica, paru aux éditions Albiana. Doumé Verdon, nous avons parlé du sacré, des religiosités populaires en Corse à présent. Y a-t-il l'expression d'un rapport singulier aux religieux, aux religions chez nous, Doumé Verdon?
La vraie question, c'est justement dans ce rapport aux religieux, hein, que j'ai voulu distinguer du rapport qu'on peut avoir aux religions, puisqu'en fait, ce sont des formes historiques, hein, les religions. Donc, que prend justement ce sentiment religieux ? Sentiment religieux qui, comme il l'indique, à la fois nous relie tous ensemble et en même temps nous relie aussi à, allez, une transcendance, un dieu, plusieurs dieux, des entités métaphysiques. Après, on va les désigner de façon différente selon la forme, justement, historique ou proto-historique que peut prendre effectivement la religion et la hiérarchie et la mise en forme, on va dire, par les textes. Voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est extrêmement important. Parce que nos religiosités populaires témoignent, hein, manifestent, on va dire, de ce sentiment religieux qui, ma foi, dans lequel, on va dire, s'est sédimenté peut-être des croyances plus anciennes, proto-historiques, comme je le disais, peut-être structurellement un rapport qui existe depuis longtemps et qui va perdurer au-delà de ce que vont proposer les religions. Et on le voit très bien dans la Semaine Sainte, parce que dans la Semaine Sainte, normalement, l'Église, hein, si on va en faire la représentante, on va dire, de la religion, l'Église se retire, puisque ben, les cloches ne sonnent plus, et que tout d'un coup apparaissent ben, cette particularité qui est la nôtre, qui existe aussi ailleurs, bien entendu, que sont les confréries, et qui sont ces intermédiaires entre, justement, l'Église, hein, officielle, hiérarchisée et intronisée qui existe, et ben, nous, qui sommes des fidèles, qui ne sommes, n'appartenons ni au clergé, ni aux confréries. Voilà. Et donc, on va dire que l'irruption de ces confréries comme acteurs de premier plan, on a aussi des pratiques, des usages, parce que, comme je l'ai dit, il y a un schéma liturgique, hein, la mort du Dieu et sa résurrection du Christ. Eh bien ensuite, nous, on va dire, ici et maintenant, on va faire aussi des choses, on va chanter des choses qui ne sont pas écrites dans les textes, bien entendu. Hein. Des objets, on va tresser des palmes, on va faire des processions, granides, les parades, etc. Donc, voilà. Et on va manifester notre sens aussi du collectif et de la communion, parce que Pâques, c'est une fête du dehors, hein, c'est une fête de la famille, c'est une fête des amis, on fait des processions à l'extérieur, la merindée du lundi de Pâques, si on devait faire la comparaison par rapport à Noël, qui est beaucoup plus une fête de l'intime. Hein. Donc je crois que c'est une fête aussi qui est propice à ce qu'un petit groupe comme le nôtre puisse manifester ses liens entre confraternels, hein, entre les membres de la communauté, et puis aussi son lien avec le territoire, hein, parce que on fait des processions trois fois par jour, hein. Donc forcément, voilà, et y compris après, si on sort de la Semaine Sainte, on va vers les saints patrons. Voilà, c'est souvent la procession et donc cette espèce de consécration du territoire, hein, ou de cette nouvelle sacralisation du territoire qui systématiquement est quand même la structure, on va dire, des rituels, hein, et des pratiques.
Avec quelque chose d'intéressant que vous notez et vous dites d'ailleurs que ça pourrait doumer faire partie quasiment d'une thèse ou en tout cas d'un travail de en profondeur, c'est la granite, tout là. C'est vrai qu'autant il y a plein de symboles, ouais, qu'on peut retrouver un peu partout en Méditerranée également, l'idée de procession comme ça qui s'enroule. Mais la
tout
nôtre est très particulière malgré tout.
Tout à fait, Fabrice, c'est très bonne remarque. Hein. Effectivement, on s'interroge sur la question. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein, qui ont été formulées. Voilà, c'est vrai que ça référence aussi un peu étymologique à l'épi de blé, etc. Mais c'est une procession en spirale. Hein. On a des processions circulaires, on a des processions labyrinthiques. Voilà. Mais la procession en spirale, en Méditerranée, elle est très peu connue. Les chercheurs la notent dans certaines régions. Hein, par exemple, on l'a en Calabre, mais pas pour la Semaine Sainte. Et elle est appelée Caracolo. Donc, ça nous rappelle notre Caracolo à nous, qui était une danse funèbre au moment, effectivement, où le mort était exposé. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, notre granide ou la en spirale qui se déroule dans un sens et dans un autre, mais qui a surtout à l'intérieur l'axis mundi, c'est-à-dire là, la croix, qui montre qu'on progresse, on se transforme, on prend sur soi-même pour se transformer et se modifier, tous ensemble, pour connecter avec l'au-delà, l'infini, voilà, la terre et le ciel, allez, on va les appeler différemment, mais en tout cas, c'est ce mouvement, à un moment donné, qui est effectivement une transformation, une capacité à passer ce moment critique qu'est la mort, hein, là, en l'occurrence, la mort du Dieu, qui pourrait entraîner une mort collective, cette capacité, justement, à convoquer toutes les énergies, à se mettre ensemble, à essayer, à un moment donné, de dépasser ce moment critique, et du coup, à s'en sentir transformé au moment de l'élévation vers l'infini. Donc la granit, où là, elle se fait aussi le 8 septembre, hein, vous le savez, avec des manifestations sonores. Hein, voilà. Donc en général, on fait asparade, hein, donc les coups de fusil, pour dire la joie, pour dire la liesse, pour dire justement hein, ce moment critique dépassé. Donc c'est intéressant. Et franchement, sur la granit, où là, on va dire, elle est peut-être moins spectaculaire hein, que le cadenach ou le l'incadena, donc le via crucis, hein, le chemin de croix. Mais elle est, je pense, très importante sur le plan structurel parce qu'elle dit hein, ce sentiment religieux dont on parlait tout à l'heure, très particulier, qui fait à la fois référence, bien sûr, hein, au cycle de résurrection du Christ, mais qui fait aussi référence à notre façon de concevoir comment on peut passer un moment critique et comment on va passer de la mort à la résurrection, mais peut-être aussi de la mort à la renaissance, ou de la mort à une autre étape de conscience. Voilà. Je pense que la granit, on pourrait effectivement la lire, on va dire, on pourrait y appliquer des grilles de lecture tout à fait différentes, mais qui donneraient structurellement ce mouvement de transformation.
Doumé Verdogne, on serait resté encore longtemps à vos côtés pour évoquer ce sujet. On renvoie à tous les auditeurs qui souhaitent interroger ces questions à votre ouvrage et à vos articles. Il y en a plus d'une centaine au niveau...
Sur la médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, le site de l'Université de Corse. Il est en ligne gratuitement, open source.
Merci infiniment pour votre contribution.
Merci
à Sabienza aujourd'hui.
Merci Fabrice.
Merci.
Excellente journée.
Merci, merci. Buona giornata a tutti.
Ce fut un plaisir, Fabrice, d'être à vos côtés. Mais vous, ça a été pareil, un petit peu une redite. Hein,
Pourquoi ? Parce que j'avais écouté ces deux personnages
deux
à galérer. Non, mais c'est toujours fabuleux quand on a des gens comme ça qui nous racontent aussi bien les choses. Mais je suis surtout content de voir que votre visage a changé au cours de l'émission. Vous êtes plus spirituel maintenant qu'à une heure.
Eh bien voilà, ouais, vous avez votre réponse.
Je vous trouve plus éclairé.
On se donne rendez-vous toujours lumineuse, je l'espère, lundi. Lundi prochain, 13h, 21h. Ça, c'est pour le direct sur Avreguin de Samora. Et quand on veut, vous pouvez partager nos podcasts sur les réseaux sociaux et notre site internet bleurcfm.fr.